Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, que je fais à partir de mon ouvrage « Comprendre la culture générale », paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années, et toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes au chapitre 11 de ce livre, qui s'appelle « Anthropologie de l'action ». Nous réfléchissons au rapport qu'il y a entre les intentions qui président à une action et les résultats de cette action, qui sont souvent des résultats tragiques, comme nous l'avons vu lors des précédentes émissions. Alors, nous avons parlé de Sartre et de Camus, et nous avions dit, lors de l'émission précédente, la semaine dernière, que Sartre avait un culte de l'histoire, hein, alors que Camus était beaucoup plus méfiant vis-à-vis de l'histoire. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, l'homme occidental a adoré ou idolâtré l'histoire. Alors là, je dois faire quand même une petite précision. Lorsque j'ai écrit mon livre, donc le marxisme était encore très présent dans les esprits. Il s'est décomposé au début des années 90, 1990. Et donc tout ce que je vais dire maintenant sur le culte de l'histoire est peut-être moins vrai que cela n'a été en son temps. Hein. Selon Camus, l'homme occidental place l'histoire sur le trône de Dieu et marche vers une nouvelle théocratie, exactement comme ce que les Grecs appelaient barbares et qu'ils ont combattu dans les eaux de Salamine. Il est faux, nous dit Camus, dans l'homme révolté, de nous prétendre les fils de la Grèce, ou alors nous en sommes les fils renégats. En effet, la Grèce a toujours cherché un équilibre, elle a toujours maintenu l'idée d'une compensation nécessaire, le bien était compensé par la beauté, la justice était compensée par la tendresse. Mais au contraire, dans notre hybris est un mot grec qui veut dire l'orgueil démesuré de l'homme, châtillé par la némésis, c'est-à-dire la justice immanente dans la tragédie, dans notre hybris et notre survalorisation de l'action, nous ne compensons plus le délire historique par quoi que ce soit. D'ailleurs, les Grecs avaient un sentiment profond du partage axiologique. Alors, que ça veut dire, ça, partage axiologique? Partage des valeurs, hein, c'est-à-dire le fait que il n'y a pas de monolithisme des valeurs. Les Grecs étaient polythéistes, hein. Donc, si vous prenez l'Iliade, vous avez une partie des dieux qui supporte, pourrait-on dire, les Troyens, et une partie des dieux qui supportent les Grecs, qui sont des supporters des Grecs. Donc, ce partage axiologique, hein, fait que la totalité n'existe pas. Il n'y a pas de totalitarisme, puisque, justement, le polythéisme éparpille, en quelque sorte, le divin. Tandis que le monothéisme peut mener, effectivement, à un monoïdéisme, c'est-à-dire à une focalisation unique sur un idéal, et de ce point de vue, je ferai volontiers l'éloge du polythéisme par rapport à l'esprit totalitaire qui peut habiter hein, le monothéisme. Alors, Camus opposait toujours la révolte individuelle, la révolte privée, qui était toujours légitime, comme la mystique chez Peggy, dont nous avons parlé lors de la dernière émission. Il opposait la révolte et la révolution. La révolution est programmée, intellectuellement elle est méditée, elle est totale ou elle est globale. La révolte cherche l'unité de l'être dans l'insurrection inconditionnelle autour d'une exigence de la sensibilité, tandis que la révolution cherche la totalité. Donc vous voyez le lien entre révolution et totalitarisme. La révolte peut s'imposer à elle-même des limites morales, des limites éthiques, mais pas la révolution. La révolution, emportée par sa propre logique, va nier tout ce qui n'est pas elle. Elle est l'action ou la praxis, c'est un mot grec qui veut dire action, que rien ne vient équilibrer ou compenser, que rien ne relativise. Par exemple, pour Camus, Marx, par exemple, était l'apôtre d'une justice sans tendresse, c'est-à-dire que rien ne compense. La justice absolue a besoin justement de bornes, de limites. Prenez par exemple la parabole évangélique de l'enfant prodigue dans l'évangile selon Luc. Le père pardonne à cet enfant qui a mal agi parce que cet enfant est revenu vers lui dans la repentance. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de plus important que la justice. C'est le cœur qui s'ouvre. Le père pardonne et le fils aîné, qui n'est pas content, dit que c'est injuste, effectivement, qu'on fasse fête à cet enfant prodigue qui a gaspillé son héritage avec des courtisanes, qui a été chez les non-juifs, garder des cochons, par exemple. Lui, le fils aîné, il n'a pas fait tout cela. Il trouve que ce n'est pas juste que l'on tue le veau gras, que l'on donne une belle robe, justement, à son frère pour faire la fête. Eh bien, le père répond au fils aîné, qui n'est pas content, qui est jaloux, « Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi aussi, mais il fallait bien, justement, faire la fête, puisque ton frère était mort et il est revenu à la vie. Magnifique histoire, exemple de résurrection spirituelle, de résilience spirituelle, en quelque sorte. Voilà, la vraie résurrection. Donc, tout cela pour vous dire que l'exigence de justice est une chose, mais aussi, il y a autre chose, savoir pardonner. Dans le Premier Testament, il y a l'histoire de Jonas qui n'admet pas justement que Dieu pardonne aux habitants de Ninive et qui n'est pas content justement de ce pardon de Dieu. Et donc Jonas est un psychorigide obsédé par la justice de Dieu. Il faut punir celui qui agit mal. Mais non, la miséricorde de Dieu est plus grande et déjoue tous les calculs de Jonas en quelque sorte. Vous voyez? Donc, je parle aussi d'un autre exemple qui me vient à l'esprit, devant le micro, c'est les ouvriers de la vigne, l'ouvrier qui a travaillé depuis la première heure a le même salaire que celui qui a travaillé simplement une heure avant la fin de la journée, Alors, l'ouvrier qui a travaillé toute la journée, dit au maître, mais enfin, ce n'est pas juste. Et le maître répond, je ne te fais pas d'injustice. Huk adikos se. Je ne te fais pas d'injustice. En effet, combien je t'avais promis? Alors, telle somme. Combien je t'ai donné? Telle somme. Donc, je t'ai donné ce que je t'avais promis. Je ne te fais pas d'injustice. Donc, imaginons par exemple un grand gâteau. On nous donne une portion du gâteau. Et puis, nous n'avons plus faim une fois que on a mangé la portion du gâteau. Pourquoi être jaloux d'un autre à qui on donnerait une portion identique et dont on pense qu'il ne la mérite pas, En fait, on ne nous a rien enlevé à nous. Donc, se focaliser sur la justice, c'est le propre d'un esprit dont je disais psychorigide, comme dans le cas de Jonas, un esprit campé sur ses certitudes, un esprit aussi étroit, Et puis cela mène à la vision totalitaire. Alors, je ne sais pas par quelle association d'idées, mais me vient à l'esprit le mot de Castiglione à Calvin après l'exécution de Michel Servet. Tuer un homme, c'est tuer un homme. Il avait peut-être tort, ce Michel Servet, de nier la Trinité. Mais un homme mort est un homme mort, comme le disait Castiglione. Voilà, par cette association d'idées m'a fait, justement, je crois que le commun dénominateur de la réflexion ici, c'est en quoi consiste l'esprit totalitaire. Et c'est vrai que Calvin, à Genève, avait instauré une espèce de théocratie. Donc il a incarné, justement, le bras armé de Dieu. Alors, nous avons inventé, nous, depuis la Renaissance, Thomas More, etc., les utopies, les utopies. Et dans les utopies, on voit le délire de la rationalité qui veut tout régenter et qui veut justement être à la source de de l'action, la volonté d'intervention en toute chose, sans limite d'autres qui puissent les borner. Et les utopies, elles sont résolument, je dirais, prométhéennes et faustiennes. Lors de la dernière émission, nous avions vu cette double différentiel anthropologique de l'Occident, hein, Prométhée d'un côté, l'action, et Fauste de l'autre. Hein. Alors les utopies ont refleuri en Occident depuis la Renaissance, hein, alors que les certitudes religieuses jusque-là évidentes, hein, dans le cœur des hommes, commençaient à être mises en question par le rationalisme qui s'éveillait. Hein. Et évidemment, ceci explique cela. L'utopie, alors que ça veut dire utopie? C'est un lieu qui n'existe pas, en grec, utopos, hein, un lieu inexistant, ou bien un lieu plus beau que tout réel même, que tout lieu réel même. À ce moment-là, ça serait utopos. Utopos, e c'est bien, hein, ou c'est la négation. Hein. Alors l'utopie va simplifier l'homme et le monde. Hein. On va chercher le bien-être pour tous, un bien-être identique au mépris de toute prudence. Et Dostoïevski a bien dénoncé cette paranoïa rationnelle qui consiste à enfermer l'homme dans le palais de cristal de la raison. Et contre cette prétention, Dostoïevski défendait l'homme souterrain, hein, c'est-à-dire l'homme qui faisait à l'irrationnel sa part. Non pas l'homme abstrait des utopies, mais l'homme de chair et de sang. J'ai cité Suran, justement, lors de la du début de cette émission. Bien, Suran a violemment attaqué les utopies dans un livre qui s'appelle « Histoire et utopie ». Donc, je crois que c'est la semaine dernière que j'ai cité Suran, hein, il me semble. Bon, avec Ionesco. Alors, le tragique, c'est que les utopies peuvent se réaliser. Hein. Les terribles niveleurs dont parle Dostoïevski dans Les démons ou Les possédés, avec le personnage de Chigaliov, hein, sont effectivement venus au pouvoir. Et aucun doute ne les effleurant, ils ont asservi des peuples entiers. Le totalitarisme figure donc le tragique essentiel de l'action à l'échelle collective. Comment du bonheur universel rêvé pour les peuples, on aboutit à l'asservissement universel. C'est un monde fait de représentations irréelles, un monde fait de kitsch, hein, en apparence, mais ce kitsch est imposé. C'est un monde d'où on a supprimé toute histoire vraie, toute mémoire. L'utopie va avec l'uchronie. Uchronie, c'est un néologisme qui signifie que l'on fait comme si le passé n'existait pas. Comme ce qui s'est produit autrefois ne s'était pas produit. Hein. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre, disait le philosophe Santayana. Hein. Donc l'utopie veut du passé faire table rase, comme il est dit dans l'International. Mais elle risque de revenir rapidement à la barbarie première. Voyez par exemple la ferme des animaux de Orwell, où l'on voit comment s'installe une société totalitaire. Anna Arendt, dans Les origines du totalitarisme, voit dans le phénomène du totalitarisme quelque chose de spécifique au XXe siècle et sans précédent. Et très tôt, dans le phénomène totalitaire, on a tout désymbolisé. Il n'y a plus aucun alibi, aucune sublimation. Nous avons, lors du début de cette série d'émissions, parlé de la symbolisation nécessaire, de la sublimation nécessaire des instincts. Eh bien, dans le cas de l'utopie qui se réalise et qui devient une dystopie, hein, c'est-à-dire une réalité catastrophique, hein, bon, eh bien, on voit que derrière l'oripeau de l'idéologie, il y a très vite le règne du fait, de la force brute, la lutte cynique pour le pouvoir, en somme, la réalité du gangstérisme. Et rien ne fait mieux comprendre la réalité du XXe siècle à cet égard que le roman de Kafka, Le procès. Et de toute façon, le phénomène de l'utopie signifie la défaite du calcul humain et métaphysiquement le tragique de l'immodestie dans l'action. À propos des terribles niveleurs, je pense au personnage de Procuste. C'était un brigand dans la mythologie antique. Il fut tué par Thésée. Eh bien, ce Procuste avait un lit, hein, sur lequel il attachait ses victimes, eh bien, les trop petites, il les allongeait, et finalement, les trop grandes, il les raccourcissait, en quelque sorte. Dans ce Procuste, le lit de Procuste peut figurer la raison totalitaire. Il y a un totalitarisme de la raison. Je vous renvoie au livre d'Adorno et d'Horkheimer, qui s'appelle « La dialectique de la raison ». Alors j'ai parlé du kitsch des utopies. En effet, pourquoi le kitsch? Parce que l'utopie nous montre de façon totalement fallacieuse que le monde dans lequel on vit est le meilleur des mondes, hein, le meilleur des mondes. Comme le dit Huxley, c'est une antiphrase, c'est-à-dire une antiphrase consiste à dire une chose pour dire exactement le contraire. Quand je dis c'est du propre, c'est du joli, suivant le ton de ma phrase, soit c'est quelque chose d'effectif, soit c'est totalement ironique. Hein. Alors prenez par exemple le titre du livre de Zinoviev, L'avenir radieux, hein, l'avenir radieux, eh bien, c'est manifestement une antiphrase, exactement comme le meilleur des mondes, Brave New World, hein, d'Huxley. Hein. Donc, en fait, c'est un monde catastrophique, mais on fait miroiter aux gens l'idéologie sous forme de kitsch, le héros du réalisme socialiste, hein, par exemple. Lisez aussi le livre de Milan Kundera qui s'appelle « L'insoutenable légèreté de l'être », où il y a une critique du kitsch qui est la négation absolue, selon Kundera, de toute la négativité de l'existence, de tout du mal objectif. Hein. Le réalisme socialiste nous présente l'ouvrier ou le couple d'ouvriers embelli, mais non, l'effort humain, justement... Prévert en parle dans Parole, il porte un bandage hernière, hein, l'effort humain. Bon, donc il déconstruit le héros positif du fameux réalisme socialiste. Alors voilà, où est-ce que nous en sommes? Eh bien, l'action hein, peut être débordée par ses résultats et aboutir à des choses catastrophiques. Alors on va peut-être alléger un petit peu la réflexion ici, parler de choses plus concrètes, peut-être plus légères. La notion d'effet pervers. Alors, la notion d'effet pervers, c'est une notion qui vient à l'esprit lorsqu'on examine l'action. Hein. Elle est évidemment dérivée, cette notion, de celle d'hétérotélie, c'est-à-dire de détournement de finalité dont j'ai déjà parlé. Alors, prenons quelques exemples. Toute action engendre pour son auteur des conséquences dont il ne s'était pas douté, hein, comme le dit Karl Jaspers. Hein, Karl Jaspers. Donc, c'est un effet boomerang, hein, et les actions nous reviennent à la figure, nous sautent à la figure. C'est une fatalité que l'Inde appellerait karmique, hein, fatalité liée au karma, hein, c'est-à-dire tout homme récolte ce qu'il a semé. Alors, prenons quelques exemples concrets. Les maladies iatrogènes, c'est-à-dire qu'ils sont générés par la médecine elle-même. Hein. Elles sont engendrées par des médicaments même destinés à soigner l'affection. Eh bien, c'est un exemple d'effet pervers. C'est bien de soigner les gens, mais on peut justement, par la thérapeutique, hein, aboutir à des effets pervers non prévus. Donc, tout comportement, toute conduite, toute mesure censée améliorer une chose... et grosse d'effets pervers possibles. Pensons aussi aux maladies ou infections dites nosocomiales, qui sont contractées à l'hôpital, hein, comme l'hépatite C, etc. Hein, bon, par des transfusions sanguines où le sang n'était pas contrôlé à l'origine, si vous voulez. Hein. Donc, infection, quand on entre à l'hôpital, on entre pour être soigné, mais on peut effectivement y attraper des maladies. Attraper, comme on dit, hein, bon, c'est un mot familier. Donc, il y a de ce point de vue des avantages, alors là, de l'homéopathie sur l'allopathie, puisque l'homéopathie a moins d'effets pervers possibles. Et l'allopathie signifie l'interventionnisme. Alors, l'allopathie, elle est occidentale d'inspiration, puisqu'il s'agit d'intervenir pour combattre. Hein. Et au contraire, l'homéopathie, qui veut suivre la propension naturelle des choses, c'est-à-dire la capacité que l'organisme a de lui-même pour se défendre, elle est plutôt orientale d'inspiration. Hein. Je dis déjà qu'en Chine, eh bien, le sage est celui qui suivait la propension des choses. Hein. Et la propension des choses, c'est un livre du sinologue François Julien sur la pensée chinoise. Hein. Donc, vous voyez, nous, on attaque le virus ou l'intrus hein, par l'allopathie. Eh bien, une autre vision serait possible et moins grosse d'effets pervers, puisqu'il s'agit de stimuler les défenses naturelles de l'organisme. Alors, autre exemple, ça fait un peu fouillis, ça fait inventaire à la Prévert, un peu ce que je fais devant vous, là, mais enfin, Bon, autre exemple. L'heure d'été. Alors moi, je suis violemment contre l'heure d'été. Hein. Elle a des effets pervers importants puisqu'elle dérègle les rythmes biologiques et la chronobiologie interne. Hein. Ces rythmes, on les appelle des rythmes circadiens. L'heure d'été nous met en avance de 2 heures sur le soleil. Hein. Elle nous impose de chercher midi à 14 heures, en quelque sorte. Hein. Chercher midi à 14 heures. Or, on ne joue pas le soleil au zénith. Bon, ben c'est le vrai midi. Mais nous, c'est 14 heures si nous adoptons l'heure d'été. Alors, vous me direz, il y a du positif, les économies d'énergie, mais le positif se paie très cher. Hein. On ne peut pas. Par exemple, coucher un enfant à 9 heures le soir alors qu'il fait plein soleil dehors. Hein, allez faire en sorte qu'il s'endorme. Vous pouvez toujours essayer. Hein. Donc, je pense que là, on a, comment dire, valorisé l'économie. Et encore, les économies ne sont pas sûres. Hein, mais vous savez, dans l'Évangile, on dit le Shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Hein. Transformez Shabbat, mettez économie à la place. Hein, l'économie est faite pour l'homme et non pas l'homme pour l'économie. Hein. Voilà. Donc, il faut mettre l'homme au centre de tout. L'homme a des rythmes qu'il faut pouvoir respecter. Alors, autre exemple. Le fameux bison futé. Bon, bison futé disait aux gens de conduire la nuit pour éviter les embouteillages qui encombrent les routes le jour. Mais là, les effets pervers peuvent être catastrophiques parce qu'il y a beaucoup plus d'accidents graves la nuit que le jour. Quand la tension est relâchée, par exemple entre 2 heures et 5 heures du matin, c'est là qu'il y a le plus d'accidents quand les gens s'endorment, vous voyez. Aucune mesure n'est exempte d'effets pervers. Voilà. Autre exemple, l'impôt. L'impôt, il est nécessaire, mais il est démotivant. Parce qu'on n'a pas beaucoup intérêt à travailler quand on paie trop d'impôts. Trop d'impôts tue l'impôt. Et un des effets pervers de la démocratie, que les Grecs avaient déjà remarqué, c'est qu'on y a parfois avantage et intérêt à être pauvre et à faire trembler les riches par l'inquisition ou la suspicion qu'on exerce sur eux, plutôt qu'être riche et trembler devant les pauvres et les dénonciateurs, les sycophantes, les dénonciateurs initialement des voleurs de figues, sycophantes. Hein, bon. Donc voilà, trop d'impôts tue l'impôt. Alors, autre exemple, tenez, quelque chose de très actuel à propos de l'héritage de Johnny Hallyday. Le droit connaît des effets pervers. Hein. Bon, on ne peut chez nous déshériter son enfant. Hein. Et cette mesure, bien sûr, elle est bonne. On voit au départ pourquoi elle a été prise, parce qu'il s'agit de protéger l'enfant contre la folie potentielle de ses parents, de ses géniteurs. Mais cette mesure a un effet pervers en ce sens que elle est une entrave pour chaque individu à la liberté de tester. Comme le remarquait déjà Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, la liberté de faire un testament comme il veut. Hein. Donc, vous voyez, tout est ambivalent, tout est ambigu. Hein. On ne sait pas trop, justement, quelles mesures prendre. L'édifice entier des lois est dans un équilibre éminemment fragile. Et quand on s'avise de toucher aux lois, on ne devrait le faire, comme le disait Montesquieu dans sa préface à l'Esprit des lois, que d'une main tremblante. Voilà, je cite Montesquieu. Que d'une main tremblante. Chaque essai d'amélioration peut aboutir à une catastrophe. Voilà. Sur l'anthropologie du droit, bon, notre droit, il est héritier de Saint Augustin, qui a inventé le péché originel, hein, en son temps, et qui a dit que l'homme n'était pas totalement, n'était pas bon, voilà, à l'origine. Ce péché originel, qui n'est pas dans les évangiles, qui est ignoré, par exemple, du judaïsme, hein, que Abélard avait nié, par exemple, au Moyen-Âge, eh bien, ce péché originel, a déteint sur notre droit. Il y a des choses qui sont indisponibles, hein, que l'on ne peut pas faire. Bon, mais aux États-Unis, où l'augustinisme n'existe pas, hein, on peut tester comme on veut, déshériter qui on veut, etc. On dit que Sartre, revenant des États-Unis, aurait dit « Je ne m'entendrai jamais avec un peuple qui ne croit pas au péché originel, qui n'est pas augustinien ». Il est vrai que les États-Unis sont majoritairement protestants et l'augustinisme n'a pas eu d'influence, peut-être comme chez nous. Alors, tous les sociologues, revenons aux effets pervers. Les sociologues ont analysé la notion d'effet pervers et cette notion sert parfois de piste principale dans l'interprétation des phénomènes sociaux. Autre exemple, hein, la presse. La presse, alors elle a un côté positif, c'est l'appel à l'opinion publique par lequel l'individu peut se défendre. Bon, on peut toujours, si l'on s'estime lésé, convoquer un journaliste, raconter son histoire et prendre l'opinion à témoin. Mais l'effet pervers de la presse existe. Il y a un impérialisme de ce fameux quatrième pouvoir. La presse peut broyer l'individu. Je pense au livre d'Heinrich Boll, dont on a tiré un film, qui s'appelle « L'honneur perdu de Katharina Blum ». Vous voyez ? Bon. Autre exemple, la croissance économique. La croissance économique apporte du mieux-être, mais aussi elle apporte de la pollution. Plus un pays se développe, plus il pollue. Et donc il y a un danger à faire de la croissance un catéchisme intangible. La même chose pourrait se dire pour le tourisme. Alors le tourisme donne des vacances aux gens, hein. Par exemple les congés payés, les gens ont découvert justement la mer à cette occasion, c'est une bonne chose. Mais le tourisme de masse dégrade les paysages, pollue. Bon. Vous voyez, je fais mon catalogue à la Prévert, hein, effet pervers. Prenez l'hygiénisme. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir de l'hygiène. Mais aujourd'hui, il y a ce que j'appellerais le complexe des écuries d'Augias, hein. Donc, on veut une hygiène maximale, le pain sous emballage plastique, etc. Et aujourd'hui, on réprime tout, le fumeur comme l'automobiliste alcoolique. Et tout cela est hors de proportion. Il y a donc un angélisme exterminateur par rapport à ce fameux ange exterminateur dont parle la Bible, hein, l'ange du Seigneur, vous voyez. Donc, il faut, comment dire, savoir raison garder, mais c'est très très difficile. Alors, nouvel exemple, le droit. Le droit va dégénérer en juridisme, en conduite procédurière. Aux États-Unis, les procès prolifèrent et les avocats sont très florissants. Hein. Un seul regard peut nous faire accuser de harcèlement sexuel. Hein. Donc il va falloir raser les murs, en quelque sorte, hein, pour éviter justement une telle accusation. Donc comme le dit le proverbe, « Summum ius, summa injuria ». Plus grand est le droit, plus grande est l'injustice. Vous voyez ? Donc, tout finalement, poussé trop loin, chaque initiative peut aboutir à des choses catastrophiques. Si vous êtes, trop obsédé par la pureté, hein, la pureté du corps, etc., votre corps ne se défendra plus. Hein, et le danger de l'hygiénisme dont je viens de parler se manifeste par là. Hein, c'est-à-dire, nos défenses immunitaires n'auront plus l'occasion de s'exercer. Et dernier exemple, le vote. J'ai déjà signalé que Hitler, par exemple, a été élu démocratiquement. Le vote, c'est la tyrannie de la majorité. Et il n'est pas dit que le peuple entier, le gros Léviathan, dont parle Alain, hein, dans ses propos sur les pouvoirs, ait toujours raison. Hein. Bon, mais je terminerai par l'effet pervers de ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de précaution. Hein. L'effet pervers du principe de précaution, c'est la paralysie. Et le principe de précaution mène à un principe d'inaction. Voilà, ben écoutez, après tout ce catalogue, hein, un peu hétéroclite, je vous prie de m'en excuser, mais bon, ça fait un petit peu réfléchir. Je vais vous donner rendez-vous à la prochaine émission, la semaine prochaine, pour continuer cette réflexion sur la culture générale. En attendant, vous pouvez rentrer en contact avec moi en visitant mon blog, hein. C'est www.michel-theron.fr. Donc sur ce blog, vous pouvez me laisser des messages et je vous y répondrai. Donc rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Theron sur son blog www.michel-theron.fr.